d'abord remercier à François Pesquet, nos organisateurs, d'avoir gentil de m'inviter. Ça me fait extrêmement plaisir de revoir Michel Doré, avec qui on a quelques souvenirs communs dans la discipline qui est restée la mienne, c'est-à-dire médecine intensive et réanimation. Alors, écoutez, voilà, je n'ai rien à déclarer, grosso modo. Je n'ai pas demandé de le faire à la place, ça. C'est-à-dire que, bon, voilà, effectivement, je pense que malheureusement, il n'y a pas assez d'universitaires dont le nom n'apparaît pas dans le site Transparence Santé. Voilà, je n'ai aucun lien avec aucune industrielle, d'aucun industriel, d'aucune sorte. Je suis certainement venu formateur, mais mes propos n'engagent que moi-même. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce cartoon qui est absolument merveilleux, qui m'a été suggéré par un étudiant. Voilà. Parce que vous allez voir, ce que je vais vous raconter, les étudiants, ils nous savent de plus en plus, ils nous apprennent des choses. Voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé avec l'industrie pharmaceutique? Au début, ils ont un modèle. Ils ont un modèle qui est celui-là, ils font des médicaments, c'est bon pour le patient, et que c'est tellement bon pour le patient que ça se vend beaucoup, et qu'ils font beaucoup d'argent. Voilà, écoutez, voilà, jusque-là, sauf si on veut reconstruire absolument l'Union soviétique, jusque-là, il n'y a pas grand-chose à reprocher. Et puis, alors, un bout, ils perdent les cartes, elles tombent par terre. Alors, ils disent, comment est-ce qu'on les remet en place? Je ne sais plus du tout. Et puis, ils disent, j'ai la solution, je les ai remises en place. Donc, on fait des médicaments pour gagner plein d'argent, puis on verra ensuite comment ça s'applique au malade. Alors, effectivement, ça va nous être d'attaquer beaucoup le problème des key opinion leaders, des experts. Alors, moi, j'adore cette phrase du LEM qui est reprise par des doyens, même. Hein. Un expert sans lien d'intérêt est un expert sans intérêt. Quand ils ont dit ça, ils sont contents. Ils ont évacué le problème. Alors, donc, ce que je dis à chaque fois que je fais un topo là-dessus, donc je suis confus, vous avez devant vous un expert sans aucun intérêt. Bon, et justement, notamment sur ce sujet-là, qui me tient à cœur, puisque c'est vrai qu'on trouve être un peu orienté vers ma discipline, la réanimation, mais en fait, on peut l'extrapoler à tout. Ah voilà, on se sert de plein de machines, notamment du rein artificiel. Il n'y a pas beaucoup de choses pour savoir à quel moment, dans une assurance rénale aiguë, et je pense que Michel s'en souvient, quel moment est-ce qu'on voit démarrer une réparation rénale. Ce qui est possible, et ça, je pourrais faire une heure là-dessus, c'est que si on regarde les recommandations d'experts, un, ils sont tous payés par l'industrie du rein artificiel, deux, ils disent grosso modo, je caricature un peu, et c'est pas bien loin de ça, à peine le malade en réanimation à l'insuffisance rénale aiguë ne fait plus de pipi, il faut l'épurer, sinon vous êtes des monstres. Et donc, bah, nous, on a été des monstres, puisqu'on a fait une étude pour essayer de comparer l'attitude précoce versus tardive, et on a montré qu'en attendant, eh bien, on évitait grosso modo le rein artificiel à 50% des malades, sachant quand même que c'est la technique la plus agressive qui est grosso modo en réanimation, à éviter ça à 50% des malades, qui n'étaient pas tous survivants. Certains décédés, d'autres survivaient, mais en tout cas, on leur avait évité ça, et donc beaucoup survivaient. Et bien sûr, il n'y avait aucune différence de mortalité entre les deux bras. C'est un papier, on a bataillé avec certains reviewers, parce que, visiblement, il y en avait certains à qui ça faisait de la peine, et actuellement, on bataille, toujours dans les congrès, il y en a qui expliquent que, non, ce papier est plein de défauts, ce qui est très possible en plus, et il faut absolument épurer très tôt les malades. Donc, c'est vraiment le point de vue d'un expert sans intérêt. Néanmoins, quand je m'intéresse à savoir l'intérêt qu'apportent les experts à l'industrie pharmaceutique, on nous explique, sans la collaboration entre les experts, les universitaires, etc., qui l'on veut, et l'industrie pharmaceutique, il n'y a plus de recherche, ça ne va pas aller du tout, on ne trouvera plus de nouveaux médicaments. J'en déduis que, bien évidemment, ce sont les cardiologues qui sont à la paillasse et qui mettent un groupe hydroxyle ou un méthyle sur je ne sais pas quel médicament pour qu'ils dilatent un peu mieux les vaisseaux. C'est sûr que c'est dans leurs compétences, c'est sûrement eux qui font ça. Et ça se reflète très bien là-dedans, puisque quand on regarde ceux avec quoi... Tiens, Michel, tu avais un magnifique pointeur tout à l'heure. Oui, tu l'as piqué, Thomas, non? Voilà. Donc, quand on voit à quoi servent les sous, c'est un rapport égal, donc je pense que c'est à peu près sérieux, bah, on pourrait se dire, bah, les sous vont surtout servir à la contribution scientifique qui n'est pas vraiment définie. Bah, nous, on voit qu'ils servent beaucoup aux conseils et beaucoup aux prestations d'orateurs. Donc, grosso modo, ils servent à faire une forme améliorée de la visite médicale. Alors, c'est vrai que les cardiologues ont des textbooks gros comme ça, les hématologues aussi, nous-mêmes, les réanimateurs. Et puis, il y a un textbook aussi gros que ça, qui est celui-là. Malheureusement, les gens ne le lisent pas assez, ne lisent pas assez les journaux quand il y a un article sur l'éthique de la recherche. Ce qui est quand même très intéressant, c'est que dans ce bouquin, qui est un des meilleurs textbooks sur l'éthique de la recherche clinique, il y a trois chapitres consacrés au conflit d'intérêts. Trois chapitres. Donc, ça veut dire que c'est un vrai problème pour l'éthique de la recherche. Alors, la définition, bien sûr, vous la connaissez, donc je vais passer très vite et vous aurez le diaporama sous forme PDF. Bon, voilà, c'est difficile d'être serviteur de 2 mètres, en quelque sorte. Hein. Donc voilà, on peut effectivement avoir l'intérêt primaire qui est l'intérêt de la science, l'intérêt de l'enseignement, l'intérêt du patient qui peut être influencé indûment par un intérêt secondaire qui est le gain financier si on est rémunéré. Donc effectivement, et ça c'est le truc sur lequel il faut lutter tout de suite, c'est un conflit, ce n'est pas forcément, ça ne se traduit pas forcément instantanément par un deal, c'est une possibilité de deal. Et une fois qu'on a dit ça, ça permet de détruire cette sémantique stupide qu'on trouve. Ah non, j'ai des liens d'intérêt, mais je n'ai pas de conflit d'intérêt. Et donc il y a des tas de bouquins et d'articles qui montrent que cette distinction n'est pas utile. Puisque la distinguer veut dire que si je suis payé 10 000 euros et j'ai des liens d'intérêt, ça veut dire que je peux vous jurer que ça n'interfère pas avec ma façon de faire et que c'est seulement si on me prouve que ça interfère que j'ai un conflit d'intérêt. Ça n'a pas de sens, c'est une potentialité qui en soi n'est pas illégitime, mais qui peut poser problème, effectivement, quand ça interfère. Alors, vous avez encore des tas de définitions sorties de ce même bouquin. Il donne des cas. Ah oui, le chercheur qui a à la fois des stock options, qui est rémunéré par l'industrie, et puis surtout, il dit bien, bah oui, la distinction entre le conflit potentiel ou perçu et le réel n'a pas d'intérêt. C'est la même chose que ce que je viens de vous dire sur le lien d'intérêt. Et puis surtout, il n'y a pas que le conflit d'intérêt, vous le savez largement aussi bien que moi, de celui qui fait l'étude princesse. Il y a le conflit d'intérêt de ceux qui font des recommandations. Et ça, ça peut être vraiment dramatique. Et on va le voir en dessous ensuite. Et puis on sait très bien que lorsqu'une industrie est à la base du financement d'une recherche, ça a plus de chances de montrer que son produit marche. Alors, ça a conduit quand même Marcia Engel, qui était l'éditrice du New England pendant un certain temps, à écrire ces choses que je vous laisse lire, hein, qui parlent pour elles-mêmes, et notamment, ça oui, le jet professeur, il y en a des tas, ils sont un jour en Argentine, le surlendemain à Singapour, pour vanter les mérites de tel produit ou de tel dispositif. Et puis, effectivement, on sait très bien qu'un certain nombre d'études sont faites, parce qu'effectivement, on est dans les papiers de l'industrie qui donnent les nouvelles molécules à la même personne, dont elle sait qu'elle gère de façon correcte. La question n'est pas là, je ne parle pas de malhonnêteté, hein, qu'elle gère un réseau de recherche clinique de 100, 150, 200 cliniciens, donc elle arrivera toujours à faire son étude. Et Marcia Engel, mais une fois qu'elle s'était fait virer du New England parce que justement elle luttait un peu trop contre les conflits d'intérêts, qui, dans le JAMA, quelques années après, a dit voilà, que la recherche qui est publiée, alors, ce « et » je l'ai mis moi-même en italique, parce qu'effectivement, il y avait toute la littérature grise qui est en train de diminuer. On va voir quelles sont les ripostes du système. Donc je crois que là, je n'en parlerai pas. Enfin, clinical trials, vous connaissez, je suppose, sinon je vous le dis très vite pour ceux qui ne savent pas. Avant, effectivement, on pouvait tenter, on disait, oh, tiens, je vais faire une étude sur ce truc-là, ça marche, je publie. Ah, un critère primaire, il ne marche pas, mais le critère secondaire, il marche. Oh, finalement, ça pourrait très bien être le critère primaire. Et boum, ça devient le critère primaire. Bon. Maintenant, pour pouvoir publier un article, les éditeurs vont vous demander de l'avoir enregistré sur un site public, notamment clinicaltrial.gov aux États-Unis, mais il y en a d'autres, il y a des sites européens, qui, ça permet de savoir quelles sont les études en cours. Donc, si elles ne sont jamais publiées, on peut se dire, tiens, pourquoi. Et surtout, quand elles sont publiées, ça permet de savoir si, oui ou non, on a changé les critères. Donc ça, c'est un point très important. Et donc, Marcia Engel avait dit, voilà, sur 200 recommandations, plus d'un tiers des auteurs avaient rien d'intérêt. Et notamment le DSM-4, qui est une grande escroquerie, je crois, 95% de ceux qui ont écrit le DSM-4 avaient des liens avec l'industrie du médicament psychotrope. Alors, ça a conduit un éditeur, pendant très longtemps, du British Medical Journal, à conclure que, ce qui est toujours une conclusion, pour reprendre toujours avec un petit peu de modération, enfin, ce n'est pas complètement faux de dire qu'une bonne partie de ce qui est publié dans les journaux est effectivement une extension du marketing. Effectivement, l'argent, bah oui, l'argent, il vient beaucoup, beaucoup des fonds de l'industrie pharmaceutique, de la biotechnologie, et on voit qu'ils augmentent beaucoup plus vite et prennent une place bien plus considérable que ceux qui peuvent être donnés par le financement public. Donc on se dit bien que si c'est l'industrie qui décide de comment on étudie les médicaments et les dispositifs et lesquels, etc., ça risque de faire des distorsions, et ces distorsions, elles ont été extrêmement bien pointées par une enquête de la Chambre des communes au Royaume-Uni,
qui dit grosso modo, ben voilà, que l'industrie a une influence énorme et hors de tout contrôle. Elle parle du médicament. Il y a toute une recherche publique, vous savez aussi bien que moi, qui n'est pas liée au médicament et qui n'intéresse pas l'industrie pharmaceutique ni celle des dispositifs. Mais pour ce qui est de la recherche sur le médicament, ben c'est eux qui décident de tout, de comment on va faire, de comment on va le publier, de comment on va le prescrire. Et ça a été, vous le savez aussi, je pense, dénoncé beaucoup par l'OMS, qui montre très bien, bah oui, qu'effectivement, il y a une augmentation vertigineuse des réunions, des conférences dans toutes les sociétés savantes. Il y a des symposiums, des satellites sponsorés par l'industrie, qui sont grosso modo des moments de publicité. Et puis surtout, montre un truc absolument extraordinaire, que vous connaissez probablement, qui est ce biais de l'illusion de l'unique invulnérabilité. On dit à un médecin, un étudiant, n'importe qui, ben voilà, on est venu vous faire de la promotion pharmaceutique, est-ce que ça vous a influencé? Oh non, 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 moi et lui, là, ça, lui, ça m'a influencé, mais lui, il va dire que j'ai été influencé. Donc, c'est cette illusion, l'unique invulnérabilité, mais c'est exactement la même chose quand on demande pour les conflits d'intérêts. J'ai donné quelques exemples tout à l'heure, j'ai des... Je les appellerai quand même des collègues, malgré tout, qui sont bourrés un certain nombre, pour un certain nombre de conflits d'intérêts. Si jamais vous leur demandez, est-ce que par hasard ça modifierait leur façon, c'est quasiment une injure. Et effectivement, donc, ça pose problème parfois dans des congrès. J'ai eu des interactions assez violentes, y compris avec le président de la société là-dessus. Bon, voilà. Et donc, clairement, même le croissant, le petit-déj, le stylo, la règle à électro, dans l'industrie pharmaceutique, et là, pour faire de l'argent, c'est pas des philanthropes. S'ils investissent 1 euro sur un étudiant ou sur un médecin, c'est pour ça leur rapporte au moins autre. Alors, effectivement, ça a été très très bien dit dans un papier du JAMA par un ancien du New England, justement, qui dit, grosso modo, la même chose, voilà, un simple repas, bah, c'est parfaitement montré, l'industrie le sait, ça va augmenter. Donc, moi, j'ai mangé ici, donc maintenant, je suis devenu fanatique de votre réunion, puisque j'ai déjeuné ici. Alors, effectivement,
en payant.
Hein? En payant. Ah non, j'ai pas payé, je t'ai invité.
Mais on a payé pour vous.
C'est repris assez bien dans le Brief Medical Journal, qui montre donc un docteur en marionnette, et en citant effectivement quelqu'un qui a été à un haut poste dans une compagnie pharmaceutique, qui dit bah oui, pour nous, c'est qui opinion leaders? C'est des gens qui sont là pour le marketing, on les évalue. Si Quanticos ça vend plus, on les garde. Si Quanticos ça vend pas plus, on ne les garde plus. Alors je vais vous donner quelques exemples qui sont issus de ma discipline. Bien sûr, c'est la seule à pêcher et les autres sont vertueuses, mais je préfère ne parler que de la mienne.
C'est sûr.
Donc bon, vous savez que le choc sceptique, choc affectueux, tu te rappelles, hein, c'est vraiment un gros problème. Ça, méchamment, on s'est amélioré depuis l'époque où toi et moi, on les traitait, on leur mettait un litre de quelque chose, un peu de dopamine et ils mouraient tous. Bon, ça s'est extraordinairement amélioré parce qu'on leur met non pas un litre, mais 10 litres, parce qu'on leur met pas de la dopamine et de la noradrénaline avec des tombereaux, parce qu'on les ventile mieux, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a une amélioration extraordinaire du pronostic du choc sceptique, parce qu'on a des antibiotiques qu'on utilise beaucoup plus vite et qui sont plus efficaces qu'à l'époque où nous travaillions ensemble. Donc, effectivement, ça s'améliore. Bien sûr, c'est logique d'essayer de trouver le médicament qui va agir sur cette cascade de médiateurs qui est complètement dérégulée. Donc, ça a toujours été un ratage, jusqu'au jour où il y a eu la protéine C activée, un papier dans le New England, un résultat dit significatif sur la mortalité, auquel un certain nombre de gens, pour moi mais pas le seul, n'ont pas cru, donc n'ont pas prescrit ce produit. Il faut savoir que dans des congrès, moi j'avais des chefs de ligne de mon service, et quand ils disaient qu'ils ne prescrivaient pas, on leur disait, mais t'es pas éthique, tu enlèves des chances aux malades. Vous allez voir d'où venait ce discours. Et bien effectivement, Lilly se rend compte que, bien que soi-disant soit efficace, elle n'en vend pas assez. Fait appel à une firme de communication qui trouve le truc, l'éthique. L'éthique, code de crime, on le met en trop bon, ça va être très simple, et dire, ben voilà, si vous ne prescrivez pas ce médicament, c'est que vous avez intégré la mentalité du système, vous êtes dans le rationnement, vous refusez de payer pour sauver des malades, vous êtes vraiment des monstres. Et les ventes ont réaugmenté, et ils ont même fait mieux. Ils ont fait une campagne dans laquelle ils ont payé les plus grands experts mondiaux. Heureusement, je ne devais pas être un grand expert mondial, donc ils ne me l'ont pas proposé, puis s'ils me l'avaient proposé, je ne l'aurais pas accepté. Mais là, ce sont les grands noms de la discipline qui ont complètement dévié l'evidence-based medicine. Et à ce sujet-là, c'est le truc que je recherchais. Je vous conseille un article d'un épidémiologiste américain qui s'appelle John Ioannidis, qui a un nom extraordinaire, et il a écrit un article qui s'appelle Evidence-Based Medicine Has Been Hijacked, elle a été détournée. Quoi. Pour montrer que l'industrie pharmaceutique s'est emparée de l'étude randomisée pour essayer de faire passer un certain nombre de choses. Alors là, ils ont fait, bah oui, si c'est randomisé, c'est prouvé, si ça ne l'est pas, c'est pas prouvé. Donc du coup, recommandation de grade B, peut-être pas A, mais enfin, c'était une forte recommandation pour la protéine C activée. Les antibiotiques, bah oui, il n'y a pas d'étude randomisée sur je mets ou je ne mets pas d'antibiotiques dans le choc septique. Donc grade E, bah vous pouvez en mettre ou ne pas en mettre dans le choc septique. Ça pose vraiment aucun problème. Ils se sont ridiculisés. Ça a fait un tollé. Ils ont donc révisé leur recommandation l'année suivante et la protéine C disparaît. Et par contre, les antibiotiques deviennent grade A, bien qu'il n'y ait pas d'étude randomisée. Enfin, ça montre. Non mais ça montre, et attends, ce genre-là, si vous faites leur mailline, ils ont des foules de publications. Ce sont vraiment des experts. On peut le montrer pour plein d'autres choses. Dans le choc, bah oui, à notre époque, c'est vrai qu'on utilisait beaucoup le plasma précongelé. Qu'est-ce qu'on en a dépensé bon, hein. Ok, de nos jours, j'utilise de l'eau et du sérum salé isotonique. Et là aussi, l'industrie est en permanence à la recherche de prouver qu'un colloïde serait mieux. Donc ils ont essayé de prouver qu'ils ont utilisé l'amidon. Vous connaissez peut-être maintenant, l'Union européenne est en train de les. On peut croire un truc et puis à un moment se rendre compte que. Moi j'en ai prescrit un peu un moment, puis dès que j'ai vu de la littérature qui sortait, j'ai arrêté. Et ce qui est très intéressant, c'est que lorsque les gens ont regardé les recommandations, ils disaient assez bizarre, les recommandations qui sont faites par des gens qui ont des liens d'intérêt recommandent plutôt ces produits-là, les recommandations qui sont faites par des gens indépendants ne les recommandent pas. Alors là, les âmes sensibles dans mon métier, ils n'aiment pas du tout quand on arrive là, parce que voici Clinical Trials. Clinical Trials, vous allez sur un site, vous dites, voilà, je veux savoir combien il y a d'études sur l'albupine pour produit de remplissage dans le choc septique, et vous tombez par exemple là-dessus. Vous voyez qu'il y a une étude qui est terminée en 2011, lorsqu'on consulte ce site, vous voyez, en 2011, qu'elle est sponsorée par le laboratoire français de biotechnologie, donc je vous rappelle que la devise est, pour ceux qui ne le sauraient pas, l'engagement éthique. Leur devise, allez voir, c'est l'engagement éthique. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Et bon, je fais la grâce de ne pas citer qu'il y a l'animateur en question. Eh bien, l'étude, elle est effectivement présentée dans un congrès en 2011, et puis jamais publiée. Alors, c'est une étude sûrement nulle, avec très peu de malades. Ben non, 798 malades randomisés en on vous remplit au cours d'un choc septique avec de l'albumine ou avec du sérum salé isotonique. Le résultat, c'est aucun changement. Quand vous connaissez le prix de l'albumine, ça fait cher. Comme par hasard, ce n'est jamais publié. Ce n'est jamais publié, alors que l'auteur a publié des tas d'autres papiers, donc il sait écrire, il n'y a pas de problème. Puis, si ça avait été positif, ne vous inquiétez pas, l'industrie, elle sait faire du ghostwriting, elle écrit le papier et puis elle le donne à l'auteur. Donc, ça n'a pas été publié, ce qui est une déviation éthique majeure, tout point de vue. Et ça n'a pas empêché le réanimateur en question de continuer à toucher, parce que Transparence Santé, j'espère que vous connaissez aussi, si on va sur Transparence Santé, on voit que la même personne, en 2017, a touché 5 000 et quelques euros. Alors, les a-t-il touché parce qu'il n'a pas publié, pour ne pas publier, malgré le fait qu'il ne l'ait pas publié? Je vous laisse vous-même prendre la conclusion. Moi-même, j'ai eu quelques débats à propos des candidats systémiques. Bon, alors, j'allais très vite là, parce que j'ai presque fini. Quand on regarde les recommandations sur le site de l'assistance publique, ça m'a valu beaucoup de déboires avec Martin Knirsch, cette affaire-là, qui est soi-disant lutte contre les conflits d'intérêts, parce que les recommandations pour les candidats invasifs sur le site de l'assistance publique sont faites par 4 personnes, aucune déclaration de lien d'intérêt. Alors que si on retrouve l'article qu'ils ont écrit, dont ils ont ici une recommandation, les 4 sont consultants pour l'industrie des antifongiques. Bon, et puis moi j'avais regardé les choses, c'est-à-dire qu'effectivement, 3 sociétés savantes qui ont fait des recommandations écrites par des gens qui avaient des liens très forts avec l'industrie pharmaceutique, toutes recommandées de première intention les échinocandines, donc essentiellement la caspofongine, et ils disaient surtout pas d'amphotéricine B, ça tue. On a utilisé pendant combien de temps l'amphotéricine B? On est d'accord, hein, mais il n'y a que les vieux qui le savent, ça. Et il n'y a que l'American Thoracic Society, avec de très très grands experts, qui eux n'avaient pas de conflit d'intérêt, qui dit, en première intention, vous pouvez utiliser de l'amphotéricine B ou de la caspofongine. C'est vrai, Alors, fotyrexine, bêta-oxycholate, c'est vraiment un médicament qu'on doit manier en réanimation, parce qu'il faut un cathéter, il faut le faire sur 24 heures, il faut faire vachement gaffe à toutes les pertes, grossonner. Enfin, si on monitore ça, on fait ça 3 semaines sans aucun problème. Et moi, les internes, quand ils arrivent dans le service et qu'ils voient ça, ils sont stupéfaits, parce qu'ils viennent d'endroits où on leur a dit qu'il ne fallait jamais le faire. Et si on fait ça bien, il n'y a pas de gros soucis. Donc, si vous voulez lire un peu les polémiques que j'ai eues là-dessus, vous vous référez à ça. Alors, effectivement, le scoop qui est sorti très récemment, c'est qu'en plus des articles dans lesquels il y a des conflits d'intérêts, ou des recommandations dans lesquelles il y a des conflits d'intérêts, bah, les bouquins, les textbooks, les conflits d'intérêts, et là, ils ne sont pas déclarés. Effectivement, je n'avais jamais fait attention. Si vous lisez le Harrison, si vous lisez le Brown Rule, n'importe quel textbook, nulle part, il y a marqué les conflits d'intérêts des contributeurs. Et là, ça a été regardé. Il y avait, vous vous rendez compte, dans le, je crois que pour le donc ils ont trouvé que 11 millions de livres non de paiement pour les textbooks, dont je crois 5 ou 6 millions pour le Harrison. Alors, moi je suis plutôt un optimiste et je pense que les choses sont en train de s'améliorer, ne serait-ce que parce que l'industrie pharmaceutique se rend compte que plus ça va, plus il est en train de se tirer dans le pied et que les gens commencent, à l'inverse, à ne plus croire un papier s'il vient, s'il est sponsoré par l'industrie pharmaceutique, même s'il est de bonne qualité. Il y a eu des études là-dessus. Et donc, qu'est-ce que dit par exemple le JAMA? Il dit, ben voilà, maintenant, si on veut faire des recommandations, il faut éviter des experts qui ont des conflits. En tout cas, ceux qui écrivent le draft, enfin, la première action, ne doivent pas avoir de conflit. Les experts qui le discutent et qui font les votes là-dessus ne doivent pas avoir de conflit. Ça, c'est une grande nouveauté. Ce n'est pas encore appliqué partout. Enfin, c'est déjà écrit. Et il y a des endroits où c'est appliqué. La SCOA, American Society of Clinical Oncology, c'est vraiment là où il y a le plus d'argent en jeu. Et bien, dans leurs journaux, ils disent que maintenant, pour les recommandations, Clinical Practice Guidelines, la majorité des membres, et en particulier le chairman, ne doivent pas avoir de conflit d'intérêt. Et c'est grosso modo ce que dit l'ONG qui dit, désormais, quand on fera des recommandations, elles seront écrites par des gens qui n'ont aucun lien financier avec l'industrie. Donc ça progresse. Puis qu'est-ce qui fait progresser? Ben c'est ça. C'est ça, vous connaissez sûrement. Moi, je tire mon chapeau aux étudiants parce que ma génération, on va dire, est passée à côté du problème, alors que les étudiants, la NEMF, sur lequel je ne suis pas d'accord avec tout, je ne suis pas toujours d'accord avec la NEMF, mais là, ils ont un gros boulot. On ne sait pas eux qui ont fait ce truc-là, mais dire qu'ils ont beaucoup promu ce sujet, et notamment les étudiants américains qui ont fait un classement des universités en fonction de leur conflit d'intérêt. C'est comme le classement du point. Au début, on dit que c'est n'importe quoi, mais à la fin, on veut toujours être le premier. Et donc, ils ont bien montré qu'au fur et à mesure du temps, la politique de conflit d'intérêt des universités s'améliore. Et donc, ça a été fait en France, et là, on part vraiment du bottom. Hein, ça a été fait très par Paul Schaeffer, du Formadel. C'est comme ça que j'ai connu, d'ailleurs. J'ai vu passer ce papier, je dis c'est formidable. Et c'est un papier que les étudiants m'ont signalé. C'est chose à pour les étudiants. J'en étais là, ils disent, mais vous savez, ça a été fait en France. Je dis, ah bon, racontez-moi. Et donc, ils m'ont, ce papier est long. Et ça a fait vraiment du bruit. Les étudiants en ont beaucoup parlé. Et ça a amené, effectivement, les doyens, enfin, à prendre une position. Alors, moi, je trouve, c'est pour ça, je trouve que pour le cinquantenaire de 1968, c'est bien de terminer avec une petite phrase. Ah, tiens, il y a un petit souci de... Ah oui, c'est toujours les problèmes des cas. Voilà, c'est un peu encore tiède, pour plein de raisons. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire une exégèse pour comprendre qu'il n'est plus permis, normalement, que des visiteurs médicaux viennent dans des services en contact d'étudiants. Il n'est plus permis qu'il y ait un pseudo-staff fait par l'industrie, avec un buffet avant, après ou pendant. Mais quand on... En fait, elle n'est pas encore appliquée. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait une charte de 20 pages, au lieu de faire avec, à la fin, un résumé qu'il est obligatoire d'afficher à la porte de chaque service. Moi, je pense que ça viendra. Donc voilà, il ne faut pas non plus désespérer, mais bon, ça se passerait bien, et je termine dessus. Voilà, et je vous remercie.